I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 12 mai 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Moi, j'adore les campagnes électorales, surtout quand il y a des rebondissements. Alors aujourd'hui, j'ouvre, non pas l'armoire, mais un album photo, pour y ranger celle qui a été prise ce week-end à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Sur l'image, il y a du monde, au milieu, Jean-Luc Mélenchon, triomphant. Pas loin sur sa gauche, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. De l'autre côté, là, Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts. Et on aperçoit aussi Fabien Roussel du Parti communiste. Alors, pour ranger cette photo de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, j'ouvre un bel album tout neuf.
Oh, Xavier, attends, je crois que tu vas un peu vite là, hein.
Olivier, pourquoi tu dis ça ? L'alliance va pas se faire ?
Si, c'est juste que tu ne vas pas vraiment avoir besoin d'un nouvel album, là. Des unions de la gauche, on en a déjà vu dans le passé.
Ah oui, bah il y a le Front Populaire de 1936, on compare beaucoup les deux en ce moment.
Oui, mais c'est pas la seule, hein. Je pense même qu'il y a pas mal de ressemblances entre ces anciennes coalitions et celles que mène aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon.
Ah mais c'est intéressant ça, mais... Moi, c'est sûr que j'ai pas d'album photo qui remonte aussi loin.
Ah, t'inquiète pas. J'ai volé plutôt, tu lui dis surtout pas, à Éric Mandonnet, sa Bible du service politique. Et dedans, il y a toutes les photos qu'on veut.
Parfait. On va faire bien attention pour lui rendre en bon état, hein, à Éric. Je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour identifier les ressemblances et surtout les leçons à tirer de chacune des unions passées de la gauche. Je te présente quand même, avant qu'on commence à regarder toutes ces photos, Olivier Perroux, spécialiste de la gauche à l'Express. Juste, j'ai dit NUPES en introduction, c'est comme ça qu'on dit ?
Oh, la tuile. Le problème, c'est qu'ils disent tout, ils disent NUPES, ils disent NUP, donc on ne sait pas vraiment encore quel est le bon sigle. Alors moi, je te propose de dire NUPES.
Comme ça, on a toutes les lettres.
Exactement, écologique et social à la fin.
Ok, donc NUPES. Alors, dans la Bible que tu as empruntée à ton chef Éric Mandonnet, on commence par quoi ?
Alors, je vais commencer par une photo. Alors, elle est un peu cornée, elle a un peu de poussière dessus, un peu jaunie, mais elle est vieille aussi, il faut dire. Elle date de 1924. Est-ce que tu reconnais celui avec les lunettes ?
Oui, avec les moustaches, là, je pense que c'est Léon Blum.
Exactement, Léon Blum, donc, qui était un élu de la SFIO. La SFIO, en gros, c'est l'ancêtre du Parti Socialiste. À côté de lui, il y a Édouard Herriot, du Parti Radical.
J'aurais pas reconnu.
Oui, alors, Parti Radical, le mot, il est un peu trompeur, hein. On va dire que le Parti Radical, c'est plutôt le centre-gauche à l'époque. Et on parle souvent du Front Populaire, mais avant de parler du Front Populaire, il faut d'abord évoquer le cartel des gauches en 1924.
Alors là, le cartel des gauches, je dois t'avouer que ça ne me dit rien.
Bon, dis-toi que le cartel des gauches, c'est une coalition électorale, une entente électorale, qui a été constituée dans une cinquantaine de départements pour les législatives de mai 1924. Donc, je te dis, il y a la SFIO, il y a les républicains socialistes, les radicaux socialistes, la gauche radicale. Il y a plein de petits mouvements qui n'existent plus forcément aujourd'hui. Il en manque un dans cette union à l'époque. Ce sont les communistes, évidemment. Eux, ils ne veulent pas participer à cette coalition. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'aucune réforme n'est possible dans un gouvernement bourgeois.
Revenons sur ces victoires du cartel des gauches. Nous sommes le 11 mai 1924.
Un cartel composé de plusieurs partis qui remportent donc les élections. Mais une fois au pouvoir, est-ce que cette union perdure ?
Déjà, est-ce qu'ils font des choses? C'est la première question. Alors, il y a pas mal de belles mesures qui sont très, très symboliques pour l'époque. Le droit de se syndiquer pour les fonctionnaires, le renforcement de la laïcité dans l'enseignement, la gratuité du lycée. Il y a le transfert des cendres de Jean Jaurès au Panthéon, qui était déjà un grand personnage de la gauche à l'époque. Il y a la création du Conseil économique et social, qui est un peu l'ancêtre de notre CESE aujourd'hui, il existe encore. Mais est-ce que ça perdure? Pas vraiment, parce que dès le début, les socialistes, ils refusent de participer au gouvernement. Ils n'ont pas envie de se faire taxer de socio-traite, car le parti radical qui dirige le gouvernement, il n'est pas assez de gauche, je te l'ai dit, il était plutôt de centre-gauche. Donc déjà, il y a un peu ce procès en être qui est bien de gauche ou pas assez de gauche. Et finalement, ça ressemble un peu à ce que je pense qui va arriver à la NUPES. C'est-à-dire que ces gens sont tellement différents, se font tellement des procès en gauche, qu'à la fin, ils vont réussir à s'allier, évidemment, mais quand il faudra voter. Et c'est un peu ce qui est arrivé au cartel des gauches en 1924, c'est-à-dire qu'ils faisaient des unions à la minute.
Des unions à la minute, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire au moment de voter, on se décidait de s'allier, de s'unir, et on votait d'une même voix, on votait la même chose. En fait, à l'époque, en 1924, c'est un accord commun dans lequel il y a un peu tout et rien. Déjà, il n'y a pas vraiment de programme vraiment uni entre toutes les composites du cartel des gauches, et chacun fait comme il veut. Et la NUPES, c'est un peu ça. C'est un accord électoral pour l'heure. Il n'y a pas de programme commun, il y a des grandes directions communes et beaucoup de désaccords qui ont été écrits noir sur blanc, notamment entre la France insoumise et le Parti socialiste sur la question de la désobéissance européenne. Et aujourd'hui, on voit que les partis qui composent la NUPES sont très divisés sur beaucoup de sujets, la question des valeurs européennes, sur la question du nucléaire, sur l'écologie, la viande, on peut rappeler le débat entre Fabien Roussel, les communistes, et Sandrine Rousseau, l'écologiste, sur la laïcité, évidemment. Et finalement, le risque, c'est que quand ces débats-là vont arriver à l'Assemblée nationale dans les mois à venir, eh ben, chacun fera un peu comme il veut. Mais si je t'ai parlé, et si on a parlé aussi longtemps du cartel des gauches, c'est surtout que ça pose les premières pierres pour un autre rassemblement, le Front populaire de 1936.
Et là, on revient à la Bible d'Éric. Il y a la photo de 1936 du Front populaire. Donc, je reconnais bien Léon Blum, là, qui est le point levé. Et les autres, c'est qui?
Édouard Daladier, Maurice Thorez et Roger Salingros. Lui, il était ministre de l'Intérieur du Front populaire. Bon, alors, il faut revenir 2 ans avant 1936, 1934. Le Parti communiste, il appelle à l'unité d'action avec les socialistes. Et en gros, s'ils se réunissent, la gauche, tous les partis de gauche, c'est pour endiguer la montée du fascisme en France et défendre la République, comme le disent à l'époque la SFIO, notamment, et le Parti radical. Donc ils font une coalition encore des partis de gauche, qui cette fois est menée par la SFIO, le Parti radical, le Parti communiste et plein d'autres petits partis un peu inconnus. Et ça débouche évidemment, on l'a tous appris dans nos livres d'histoire, sur le gouvernement de Léon Blum et du Front populaire.
Monsieur Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres.
Le gouvernement sait la difficulté de sa tâche. Il promet au pays qu'il fera tout ce qui dépend de lui pour y être égal.
Et il y a plusieurs réformes sociales qui ont été menées et qui constituent encore un peu une référence incontournable de la mémoire de la gauche et de l'histoire de la gauche en France. Les congés payés de 15 jours, on se rappelle ces images, enfin nous on se rappelle pas, hein, mais voilà, il y a ces images dans le livre d'histoire, exactement, des gens qui vont pour la première fois à la plage en Normandie, la réduction du temps de travail avec la semaine de 40 heures et l'établissement de conventions collectives.
Mais Olivier, pourquoi est-ce qu'on compare plus l'actuelle union de la gauche à ce Front populaire de 36 plutôt qu'au cartel des gauches?
Parce que c'est un beau souvenir et que les discussions pour la NUPES, ils ont un peu commencé à la fin avril, début mai. C'est-à-dire que Mélenchon, il réunit autour de la table les socialistes, les écologistes et les communistes. Et que le week-end avant le 3 mai, on se dit « Ah, mais finalement, dans 3 jours, c'est l'anniversaire du Front populaire et de la victoire législative de 1936. Ce serait formidable de signer un accord à cette date-là, à cette date d'anniversaire. » Mélenchon, il en rêve. Et finalement, ça tarde un peu les discussions et ça se fait pas.
Ok, donc cet anniversaire mis à part, la nouvelle union pourrait plus ressembler au cartel des gauches de 1924 qu'au Front populaire de 36. On va continuer à tourner les pages de la Bible du service politique. Et sur la prochaine, j'aperçois une figure que, pour le coup, je reconnais sans problème, François Mitterrand.
Ah, bien joué, Xavier. Alors, on a bien François Mitterrand sur cette photo. Est-ce que tu reconnais les autres?
Alors, juste un des deux, celui-là avec les sourcils bien sombres, je dirais que c'est Georges Marchais, le communiste.
Exactement. Et l'autre avec les cheveux gris, c'est Robert Fabre, du Parti radical de gauche, dont on parlait tout à l'heure.
Et cette photo, elle date de quand?
On est plutôt en décembre 72, lors d'un grand meeting de la gauche unie.
Mesdames, messieurs, chers camarades, J'ai l'honneur de déclarer ouverte la plus grande assemblée jamais réunie par la gauche.
Pour la première fois au cours d'un meeting, on a vu coude à coude le socialiste Mitterrand, le communiste Marchais, le radical de gauche Fabre, entourés de plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Je vais revenir un peu sur le contexte de l'époque. En 72, on est en pleine guerre froide. On se rappelle tous encore une fois que les communistes, ils mangent les enfants à l'époque. Tout le monde dit ça. Et tous les élus communistes en France, ils sont nombreux. Eh bien, ils sont considérés souvent par une partie de la gauche et une partie de la droite comme des espions soviétiques. Mitterrand, lui, en 72, il dit « Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Et je suis pas d'accord surtout avec ce que fait l'URSS avec Moscou. Mais les communistes français, ils ne se sont pas les mêmes. Et on a des choses en commun. On est tous les deux contre le capitalisme et on est pour l'émancipation populaire. » En 71, François Mitterrand, du coup, il s'empare du Parti Socialiste, le nouveau Parti Socialiste qui a été fondé 2 ans plus tôt sur les cendres de la SFIO. Mmh. Alors là, c'est le congrès, le fameux congrès d'Épinay-sur-Seine. Et François Mitterrand, il est convaincu que la gauche ne peut revenir au pouvoir que si elle se réunit. Mais il ne faut pas qu'elle se réunisse n'importe comment. Et Mitterrand, lui, décide d'abandonner finalement les alliances au centre et à droite que faisait régulièrement la SFIO. Et il recherche plutôt une union sur sa gauche, c'est-à-dire avec les communistes.
Et donc dans cette union, on retrouve le PS, le Parti communiste et le Parti radical de gauche, tous ceux qu'on a vus sur la photo.
Et c'est ça. Et en 72, il signe le fameux programme commun de gouvernement.
Les deux délégations ont approuvé l'accord réalisé sur le texte d'un programme commun de gouvernement.
Cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français. C'est un événement d'une très grande importance.
Alors, de 1972 à 1980, les socialistes, ils deviennent la force montante à gauche grâce au programme commun. Mmh. Il y a une vraie inversion des valeurs et une inversion des rapports de force. En 76, les socialistes, au municipal, ils prennent énormément de mairies, presque plus que les communistes. Et donc, du coup, c'est eux la nouvelle force à gauche. Ils prennent l'hégémonie sur les communistes. Mais en 72, Mitterrand, surtout, il propose la rupture, ce sont ses mots, avec le capitalisme. Et qu'est-ce qu'il nous disait Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier ? Eh bien, il est pour un anticapitalisme raisonné. C'est beau comme du Mitterrand de 72, non ?
Est-ce qu'il y a d'autres ressemblances, Olivier, entre l'alliance de 1972 et celle de 2022 ?
Alors, dans les deux cas, il y a un homme au centre du jeu à gauche. En 1972, c'est François Mitterrand, et en 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon. Sauf que les rôles, ils sont vraiment inversés. On a Mitterrand, le modéré, qui rassemble les communistes. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, le radical qui rassemble les modérés.
Donc des ressemblances et des différences. Et est-ce que 1972, ça peut être un bon exemple à suivre pour Jean-Luc Mélenchon ?
Alors c'est un bon exemple, oui. Lui, en tout cas, il croit que c'est un bon exemple. On peut dire que cette union en 72 contribue à l'élection de François Mitterrand en 80. Et tout le monde dit que c'était une surprise à l'époque. C'est pas forcément vrai, en fait. On l'a expliqué, c'est une construction qui a mis 10 ans quand même à venir avant la victoire de 80. C'est une méthode politique qui a été travaillée par Mitterrand. Et même si les communistes, en 1977, ils font un peu éclater l'Union, notamment sur les questions internationales...
Quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris.
Ils sont trop faibles pour inverser la marche de Mitterrand vers l'Élysée. Il y aura d'ailleurs 4 ministres communistes dans le gouvernement de Pierre Mauroy en 1981. Et voilà, il a imposé sa force, il a obligé les autres à être avec lui. Et c'est un peu ce qu'espère faire aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, imposer aux autres, ne pas leur laisser le choix d'être avec lui pour gagner. Mais il faut rappeler quand même à Jean-Luc Mélenchon qu'une fois élu, François Mitterrand, il met quand même en pratique une partie de ce qu'il y avait dans ce programme commun.
Donc l'union s'est faite autour d'un homme, mais surtout autour d'un programme.
Et ça, ça va se répéter dans la prochaine alliance dont je vais te parler. Attends, je cherche la photo.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah bah celle-là, facile, je pense que je peux reconnaître à peu près tout le monde.
Ok, on va essayer, on joue un jeu ?
Ouais, ok.
Vas-y, je t'écoute.
Alors, dans l'ordre, là, on a Jean-Pierre Chevènement.
Du Mouvement des Citoyens.
Ça, c'est Lionel Jospin.
Parti Socialiste, évidemment.
Le collier de barbe, Robert Hue.
Le Parti Communiste.
Et Dominique Voynet.
Pour les Verts, bravo Xavier, franchement bravo. Là. Alors là, la photo, elle a été prise lors du Forum National du Parti Communiste Français, le 2 avril 1996.
Et donc là, tous ensemble, ces personnages, ils forment une union de la gauche.
Exactement. En 1995, il faut se rappeler que Jospin, il ne passe pas non plus si loin que ça de l'élection face à Jacques Chirac. Mmh. Et le début du quinquennat de Chirac, il est marqué par de grandes grèves, des mouvements sociaux d'ampleur et aussi des divisions au sein de sa majorité de droite. Il décide donc de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, venu de nulle part presque, la gauche imagine en quelques semaines seulement une alliance qui remporte les élections législatives de 1997 et qui va mener la cohabitation. Bien, évidemment, ce dont on a parlé, le Parti communiste français, le Parti socialiste, le Parti radical de gauche et le Mouvement des citoyens, et aussi les Verts.
Et ça, c'est ce qu'on a appelé la gauche plurielle.
Oui, tout à fait. Ouais. La gauche plurielle, ce n'est pas une tentative de synthèse à gauche, ni même d'intégration à la pensée de gauche des idées écologistes. Hein. L'accord, encore une fois, il est essentiellement électoral. C'est pour gagner les élections législatives. C'est en ça aussi que ça ressemble à la NUPES. Chacun part de son côté au premier tour, avec son étiquette, et le candidat le mieux placé doit être soutenu par les autres au deuxième tour. Et ça fonctionne. 319 députés sont élus à l'Assemblée nationale et Jospin, il est nommé Premier ministre.
Après la démission d'Alain Juppé, ce matin, Lionel Jospin a été reçu à l'Élysée pendant une heure par Jacques Chirac, qui lui a proposé le poste de Premier ministre. Proposition acceptée.
Alors, il y a beaucoup de mesures saluées et qui sont encore saluées aujourd'hui par la gauche. Les emplois jeunes, la réduction du temps de travail à 35 heures, on s'en souvient. La prime pour l'emploi, le PACS, l'aide médicale d'État ou encore le congé paternité.
L'alliance de la gauche plurielle fonctionne donc en 1997, mais on sait tous ce qui se passe en 2002. Ça veut dire que l'union a fait long feu, Olivier.
Bah oui, les désaccords au sein de la majorité plurielle, ils apparaissent vite hein, quand même. Hein. Déjà entre les communistes, Robert Hue, et l'élu vert, Dominique Voynet. Ça nous rappelle d'ailleurs deux autres, non?
Oui, alors on va dire Roussel et Rousseau.
Exactement. En 2000, Jean-Pierre Chevènement démissionne du gouvernement. Et puis en 2002, à l'occasion de l'élection présidentielle, tu te rappelles toutes les formations politiques dont on vient de parler là?
Ah oui, tout à fait.
Eh bien, chacune envoie un candidat à l'élection présidentielle. Et finalement, le résultat, c'est le 21 avril 2002. Lionel Jospin est éliminé au premier tour. Et c'est Jean-Marie Le Pen, le candidat du Front National, qui est qualifié.
Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique.
De nouveau, si on essaie de repérer des points communs entre cette alliance passée et celle d'aujourd'hui, donc la NUPES, qu'est-ce qui ressort ?
Là où ça pourrait ressembler à 97, finalement, c'est l'alliance des identités de gauche, mais sans effacement. En 97, comme je te l'ai expliqué, chacun garde son identité, mais se range derrière le socialiste Lionel Jospin. Eh bien, aujourd'hui, ça ressemble un peu à ça, sauf qu'il se range évidemment derrière la radicalité, derrière Jean-Luc Mélenchon. Il y a un accord programmatique en 97, mais ils gardent chacun leurs idées. C'est exactement ce qui se passe avec la NUPES, une union tout en restant eux-mêmes. Donc c'est pour ça que l'argument aujourd'hui des éléphants socialistes qui est de dire « oui, le Parti Socialiste va s'effacer derrière Jean-Luc Mélenchon », mais il ne tient pas vraiment, puisque ça ressemble, comme je te l'expliquais, à 97. À l'époque, les écologistes ne sont pas devenus socialistes et les communistes ne sont pas devenus socialistes en se rangeant derrière les socialistes.
Et après 2002, depuis cette gauche plurielle, est-ce qu'il y a eu une autre union marquante à gauche ?
Je vais te le résumer, entre 2002 et 2022, finalement, la gauche, elle a surtout passé son temps à se taper dessus. Hein. Il y a le référendum sur l'Europe qui divise, qui déchire la gauche. Mélenchon, lui, quitte le PS en 2008. Et la gauche, elle continue encore à se diviser, malgré l'élection de François Hollande. On peut rappeler qu'il y a eu un accord législatif de 2012 entre les Verts et le Parti Socialiste, mais ça ne va pas durer plus de 6 mois. Puis le Parti Socialiste se prend un mur en 2017. Et finalement, le seul qui émerge depuis 2017, qui fait des bons scores au-dessus des 10%, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors déjà, à l'époque, en 2017, il aurait pu un peu dire bah, « rassemblez-vous autour de moi », il ne le fait pas, ça lui a été reproché. Erreur qu'il ne reproduit pas en 2022. Là, pour la première fois, peut-être de sa carrière politique, il dit « je veux élargir, venez à moi les amis ». Donc finalement, des unions qui ont de telles dimensions, il n'y en a pas eu beaucoup, on vient d'en parler, il y en a eu 4, et ça, eh bien, c'est la 5e.
Et on verra si cette union de la gauche tire des leçons des alliances du passé. On suivra ça avec toi notamment, Olivier, au moment des législatives en juin. Merci beaucoup.
Merci.
Olivier Perroux, journaliste politique spécialiste de la gauche à l'Express. Tous tes articles, notamment sur cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, sont à retrouver sur le site de L'Express. Et si cette plongée dans la Bible du service politique vous a plu, abonnez-vous à La Loupe. Vous pouvez le faire sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts ou Castbox. Vous pouvez nous laisser des commentaires, des étoiles et même nous écrire à laloupe@l'express.fr. Sachez aussi qu'on vous prépare une newsletter. Pour ne pas la rater, vous pouvez déjà vous inscrire. Le lien est disponible dans la description de ce podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Jules Croix et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.